Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la nuit du 3 au 4 juin, à Pékin, place Tiananmen, les manifestations pacifiques réprimées dans le sang, c'était il y a 30 ans. Depuis, la démocratie n'a pas progressé en Chine. Il est parti sous la contrainte. Laurent Wauquiez n'est plus le président des Républicains, acculé par presque tout son camp. Après la bérésina des européennes, reste la droite à reconstruire et c'est la route sur laquelle se place Marion Maréchal, dans l'idée de former une grande coalition de LR au Rassemblement National. Et lui, comment va-t-il transformer son essai des européennes? Question posée à votre invité, Nicolas.
Oui, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, il était tête de liste aux élections européennes. Yannick Jadot, dans le grand entretien de la matinale. Appelez-nous dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000. Autrement, passez par les réseaux ou l'application mobile d'Inter.
À la une également, une grève à la SNCF. Demain, le climat social est trop lourd, dénoncent les syndicats. Un carnaval anti-Trump à Londres. Des questions sur le cannabis thérapeutique au congrès du cancer de Chicago. Et puis les supporters des Bleus derrière les filles du foot. La Coupe du Monde, c'est vendredi.
France Inter.
Place Tiananmen, place de la porte de la paix céleste, dit l'encyclopédie en ligne Wikipédia, qui rappelle le massacre qui a lieu il y a tout juste 30 ans, le chiffre de 2700 morts avancé par la Croix-Rouge chinoise, quand le gouvernement n'en a reconnu que 240. Cette page, personne ne pourra la lire en Chine, où la grande muraille de la censure a bloqué Wikipédia dans toutes les langues. Pas question de commémorer, ni même de parler du printemps de Pékin, que Philippe Lecor a couvert comme journaliste, puis analysé comme chercheur. Franck Madvon est avec lui revenu 30 ans en arrière.
En ce printemps 89, les étudiants rendent hommage à Hu Yaobang, figure réformatrice du PC chinois mort le 15 avril.
Encore des manifestations monstres à Pékin et à Shanghai.
Les manifestants occupent la place pendant des semaines, une gifle pour le régime. Philippe Lecor, aujourd'hui chercheur à Harvard, est alors journaliste, l'un des rares étrangers à Pékin.
La génération de 89, c'était une génération qui était celle de l'ouverture économique et qui a donné lieu à des revendications beaucoup plus politiques.
Philippe Lecor couvre les événements, notamment pour France Inter, quand l'armée chinoise donne l'assaut.
Après deux échecs pour prendre la place Tiananmen de manière douce, le gouvernement chinois a finalement orchestré dans la nuit de samedi à dimanche la prise d'assaut de la place.
Le dirigeant Deng Xiaoping a convaincu le parti qu'il fallait réprimer le mouvement pour sauver le système.
C'est un des moments les plus incroyables de l'histoire, puisque six mois avant la chute du mur de Berlin, vous aviez une préfiguration en Chine.
Mais la mobilisation se termine donc en bain de sang. Les Occidentaux croyaient alors à l'ouverture, à la démocratisation de la Chine. 30 ans après, ils font un autre constat.
Il y a un retour en arrière qui fait même penser à la révolution culturelle par certains côtés, avec les dénonciations, avec la répression, et en tout cas à la période qui a suivi Tiananmen.
Ce qui explique en partie le tabou de Tiananmen aujourd'hui en Chine.
Et de cet événement, la marche de l'histoire fera son sujet du jour à 13h30, puis Fabienne Santès dans Un jour dans le monde reviendra sur 30 ans de contrôle pour repousser toute velléité démocratique en Chine.
Lui, Florence, a écouté les cadres de son parti, les 8h04, il laisse la place.
Laurent Wauquiez, emporté par le score calamiteux des Républicains aux européennes il y a une semaine, annonce sa démission de la présidence du parti hier soir sur TF1.
Ces élections, c'est un échec. C'est pas facile, mais il faut le reconnaître avec humilité, c'est un échec. Les victoires, elles sont collectives. Les défaites, elles sont solitaires. C'est comme ça. Et il faut que je prenne mes responsabilités. Ma décision ce soir, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. J'ai décidé de prendre du recul. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains. Je veux pas être un obstacle, à aucun prix. Il faut que la droite se reconstruise.
Alors voilà, il y a encore une semaine, au soir de sa défaite, Laurent Wauquiez semblait droit dans ses bottes. Il se projetait sur les 3 ans à venir pour reconstruire la droite, objectif présidentiel très mal perçu par les Républicains. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Ils ont donc fait tout fait pour qu'il parte. Et ben ça y est, il est parti.
Ah oui, en une semaine, la pression interne était devenue insoutenable, avec une menace de scission du groupe à l'Assemblée, des départs de certains élus, des critiques très véhémentes, des appels à la démission. Cette idée, aussi lancée par Laurent Wauquiez, de lancer des états généraux de la refondation, qui a fait un total flop. Elle n'a rencontré aucune adhésion. Réfugié chez lui ce week-end au Puy-en-Velay, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a donc pris la meilleure des décisions, disait-il hier hier soir son entourage, s'en aller avant d'être complètement abîmé par, je cite, cette violence presque irrationnelle. Il était conscient de cristalliser la tension. Tant que je suis là, c'est mort, aurait confié l'ancien chef de parti.
Et alors du coup, Élodie, qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Alors c'est à Jean Leonetti, jusque-là vice-président délégué, d'assurer l'intérim le temps que la haute autorité du parti organise une élection, pas dans l'immédiat. Il faut au moins 65 jours et comme m'expliquait un sénateur, on voit mal une élection se tenir début août, ce serait plutôt en septembre. En attendant, c'est la survie immédiate du parti qui est en jeu, soupire un ténor. Comment on fait avec tant de sensibilités différentes, de la droite conservatrice à la droite sociale? Quelle est la ligne? Est-ce qu'on est encore capable de rassembler, de faire des scores honorables? Est-ce qu'il y a un espace politique? Autant de questions qui se poseront dès demain lors de la réunion de la reconstruction organisée par le patron du Sénat, Gérard Larcher, à laquelle assisteront Bruno Retailleau, Christian Jacob, Hervé Morin, mais aussi Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Ces derniers jours, c'était l'épouvantail qui prenait les coups. Là, il va retrouver sa liberté de ton, prédit son entourage. Le huis clos risque d'être salé.
Et tout le monde, merci Élodie Forêt, tout le monde désormais part à la pêche aux déçus et aux orphelins des Républicains, à La République En Marche, Thierry Solaire, qui a sauté le pas depuis longtemps, appelle les maires centristes et de droite modérée qui préféreront toujours leur pays à leur parti à rejoindre la rive de la majorité. Marine Le Pen tend la main dans un tweet à tous les cadres et aux électeurs LR patriotes, précédée par sa nièce Marion Maréchal sur LCI, qui rêve de reconstruire une union des droites, du Rassemblement National à la droite classique, entre lesquelles elle pourrait jouer le rôle de pivot, Yael Gauze.
Pourtant sollicitée avec insistance par le RN, Marion Maréchal n'aura pas fait campagne, enfin si, mais en Italie, pour la Lega et pour son compagnon Vincenzo Sofo. Marion Maréchal, mal à l'aise avec le clivage binaire Macron-Le Pen.
Ce qui m'inquiète beaucoup dans cette dynamique politique-là, c'est le fait que nous assistons à un remplacement d'un clivage par un autre qui n'est pas forcément plus sain.
Elle, ce qu'elle veut incarner, c'est le conservatisme. Le RN, c'est bien, à condition d'y ajouter autre chose.
Je considère que le Rassemblement National est indispensable à la vie politique, mais je pense que malheureusement, il n'est pas suffisant.
Alors elle va guetter, observer, voir si d'autres LR courageux, comme elle dit, sont prêts à quitter leur parti. Pour les rassurer, elle ne tire pas sur l'ambulance.
J'ai trouvé assez détestable d'utiliser Jean-François-Xavier Bellamy comme bouc émissaire.
Sans annoncer la création d'un parti ou d'un courant, priorité à son école de sciences politiques à Lyon, Marion Maréchal se dévoile.
Je peux avoir un couloir différent, qui ne soit pas un couloir d'opposition, et qui puisse contribuer finalement à atteindre le même objectif, la prospérité et l'intégrité française.
Un couloir parallèle, mais sans nouveau duel familial, c'est promis. Ce vrai faux retour intrigue l'entourage de Marine Le Pen. Marion veut fédérer les droites, alors que ce clivage-là n'existe plus, s'étonne un cadre du RN qui poursuit. Elle était partie et elle n'a pas vu que le monde avait changé.
Yael Gauze, la voiture, l'avion, le vélo. Pendant 15 jours, les députés vont se consacrer à la loi mobilité à l'Assemblée, tenter de faciliter les transports du quotidien en préservant l'environnement. Ils parleront 80 km/h sur les routes secondaires, taxation du transport aérien, prime pour ceux qui vont travailler en vélo ou en covoiturage. Et le train dans tout ça. Depuis un an, la SNCF applique la réforme du rail. Vous vous souvenez de la grève perlée du printemps dernier. Là, on est à 6 mois de l'ouverture à la concurrence. Les quatre syndicats majoritaires appellent de nouveau à la grève demain pour dénoncer, Maxime Deps, un grand bazar social dans l'entreprise.
À la CFDT, Didier Aubert est le premier à dégainer.
Aujourd'hui, l'entreprise réforme à tour de bras, se réorganise à tour de bras, avec une gouvernance où il n'y a plus de capitaine ou de commandant à bord du vaisseau.
En ligne de mire, le grand patron, Guillaume Pépi, qui achève son mandat au 31 décembre, au moment où l'entreprise doit connaître un Big Bang sans précédent. Il était l'invité de l'émission quotidienne de Yann Barthès il y a 15 jours.
Est-ce que vos salariés vont bien, monsieur Pépi? Ça dépend.
Franchement, de l'inquiétude, il y en a, reconnaîtra dans cette même interview Guillaume Pépi. C'est qu'à 6 mois de l'ouverture à la concurrence, les conditions d'embauche des futurs cheminots ne sont toujours pas dessinées. Et Roger Dillensenger, de l'UNSA Ferroviaire, ne peut qu'abonder.
Effectivement, non seulement les négociations tergiversent, mais en plus on n'aboutit pas à des accords.
Éric Meyer de Sudrail déplore, lui, une stratégie de casse pouvant conduire à des drames si rien n'est fait pour les éviter.
Tout ce qu'on avait pu alerter au printemps dernier est en train de se réaliser. Une atomisation du système, des suppressions de postes, de la mobilité forcée. Donc aujourd'hui, les salariés y souffrent. Et on est aujourd'hui à la SNCF dans les mêmes schémas que dans le groupe Orange il y a 10 ans.
Les syndicats qui interpellent le Premier ministre et qui n'excluent pas d'entamer un nouveau bras de fer si le climat ne s'améliore pas.
Et des perturbations sont à prévoir à partir de ce soir 20h, surtout dans le centre Val-de-Loire avec un train sur 5 et dans les Hauts-de-France avec un train sur 2. Lui est dans son jet direction Londres. Donald Trump en visite officielle de 3 jours, un déjeuner avec la reine, un thé avec le prince Charles sur fond de manifestations dans la capitale dès aujourd'hui avant un carnaval de résistance prévu demain au Soufi.
Selon un sondage publié il y a 2 semaines, un Londonien sur 8 aurait l'intention de manifester. Dans le cortège, un robot de 5 mètres représentant le président américain assis sur des toilettes dorées en train de tweeter et comme l'année dernière, un ballon géant de Trump en couche-culotte. Max Wakefield en est l'un des organisateurs.
Le problème avec Donald Trump, c'est qu'il n'a aucune honte, qu'il ne répond pas à la raison et qu'il n'accepte pas les faits qui ne vont pas dans le sens de ses arguments. Donc on s'est dit que la seule façon de l'atteindre, c'est de s'en prendre à son ego. C'est la plus grosse brute du monde, donc il a un ego fragile. La dernière fois, ça avait très bien marché. Dans son interview au Sun, il avait dit « S'ils mettent ce ballon à Londres, je ne me sens pas le bienvenu ». Et il a raison, il n'est pas le bienvenu dans cette ville.
Le maire de Londres regrette cette visite d'État et dans un éditorial paru samedi dans The Observer, il compare les discours du président américains à ceux des fascistes du XXe siècle. Sadiq Khan l'accuse aussi de se mêler de la course à la succession de Theresa May. Dans une interview publiée hier par le Sunday Times, Donald Trump estime en effet que Boris Johnson serait excellent et comme à son habitude, il en profite pour donner son avis sur le Brexit en suggérant au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne sans accord et sans payer la facture du divorce. À Londres, Otsoufi, France Inter.
En France, la commission chargée d'enquêter sur les abus sexuels dans l'Église lance aujourd'hui un appel à témoins. Un numéro de téléphone et une adresse mail sont mises à disposition de ceux qui ont vu ou subi ces abus. Vous les retrouverez sur franceinter.fr. Cette commission indépendante voulue par l'épiscopat se donne 1 an pour recueillir des témoignages. Ce sera la première étape de ces travaux.
Il est 8h12, Florence. Le cannabis pour aider les malades du cancer.
Pas impossible à moyen terme en France. Le cannabis thérapeutique devrait être expérimenté dans les prochains mois, mais est-ce qu'on est bien sûr qu'il fait du bien, ce cannabis en pilule ou en tisane? Au Congrès mondial du cancer de Chicago, les médecins ne sont pas catégoriques, Véronique Julien.
Au Canada, le cannabis médical est autorisé depuis plus de 10 ans, mais peu de cancérologues le prescrivent. Une méfiance qui peut se comprendre, explique Claude Cyr. Il est médecin et chercheur à l'université McGill.
C'est un produit qui n'est pas encore standardisé. Il manque de l'évidence que ça fonctionne pour certaines conditions. On a peur beaucoup des effets secondaires. Pour l'instant, on est un petit peu confus.
On sait que le cannabis va soulager des douleurs, réduire des nausées, atténuer une fatigue, calmer des anxiétés. Mais il faut rester prudent, car on se rend compte depuis peu en cancérologie que le cannabis peut aussi, dans certains cas, faire plus de mal que de bien.
Ça pourrait faire augmenter la grosseur des tumeurs et dans d'autres cas, ça peut faire réduire les tumeurs. Autre affaire, est-ce que le cannabis peut interagir avec certains médicaments pour le cancer et augmenter la réponse? Oui, ça peut augmenter la réponse et dans d'autres circonstances, ça peut réduire la réponse de certains médicaments.
Bref, la France a peut-être raison de se donner un peu de temps avant d'autoriser ce cannabis thérapeutique à grande échelle. Quel type de plante, sous quelle forme et à quelle dose devra-t-on l'utiliser? Ce sont des questions que se pose Charlotte Joly. Elle est oncologue à Paris.
J'ai à peu près un patient sur 10 qui consomment du cannabis parce qu'ils ont des symptômes qui ne sont pas suffisamment soulagés par les médicaments. C'est difficile de leur interdire quand on sait qu'ils ne sont pas bien.
En France, des équipes d'oncologie sont déjà en train de monter des essais cliniques sur le sujet, en soins palliatifs notamment. Ces essais pourront démarrer dès que le feu vert de l'expérimentation sera donné officiellement. À Chicago, Véronique Julia, France Inter.
Il est 8h13, Florence. Le livre Inter, on approche du dénouement.
Et oui, les 24 jurés sous la présidence de Riyad Satouf se réuniront à la Maison de la Radio ce dimanche pour choisir le livre Inter 2019 et nous poursuivons comme tous les matins notre présentation des 10 livres en compétition avec Jean-Claude Grimbert. Ce matin est La plus précieuse des marchandises, un livre en forme de conte pour évoquer la déportation des Juifs de France.
C'est un conte qui a comme sujet l'enfance massacrée, l'enfance qu'on a emmenée dans des trains. J'ai été Square Villemain, dans le 10e arrondissement, et il y avait un monument, une sorte de plaque, qui présentait les enfants non scolarisés qui ont été déportés du 10e arrondissement. Sur ce monument, il y avait un couple et 2 jumeaux. Alors ces 2 jumeaux, ils avaient 28 jours, et ça m'a fracassé, et ça m'a obsédé. Et je me suis mis à écrire, parmi d'autres choses, j'ai commencé à écrire ce conte, j'oserais dire pour me consoler. Voilà. J'ai sauvé un enfant, dans ce livre, de la mort. Pour dire l'indicible.
Jean-Claude Grimbert au micro d'Eva Bétan. Et cette interview, vous la retrouvez en longueur, évidemment, sur franceinter.fr. Un tout petit mot de Roland Garros pour vous dire qu'on attend Gaël Monfils contre le 4e mondial Dominic Thiem. Aujourd'hui est aussi la fin du match père Nishikori, interrompu hier soir et qui a mal commencé pour le Français, mené 2-7-1. Enfin, en football, la France a battu la Bolivie hier 2-0 lors d'une rencontre amicale à Nantes. C'était le dernier match de la saison pour les Bleus devant leur supporters, mais place aux femmes maintenant, Nicolas, la Coupe du Monde c'est vendredi et les supporters qui étaient là hier pour les hommes ne vont pas quitter leur maillot, Cédric Guillou.
Le chant des supporters français ne changera pas. Après avoir supporté une dernière fois en France cette saison les champions du monde de Didier Deschamps, les fans tricolores sont maintenant derrière les filles de Corinne Diacre.
Ça commence à monter, on sent ça, ça va être sympa je pense.
Comme les garçons, à fond, on suit pour les gars, on suit pour les filles.
Dès vendredi, on est à fond dedans, oui bien sûr.
Ce soutien populaire, il est primordial, selon Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France masculine.
Évidemment, le fait de jouer en France doit être considéré comme un avantage.
Même s'il leur restera deux matchs de qualification pour l'Euro 2020 à disputer après le début de la Coupe du Monde féminine, les joueurs français affichent aussi clairement leur soutien aux Françaises, le milieu de terrain Blaise Matuidi.
C'est une compétition qu'on a envie de voir avec beaucoup de plaisir et surtout être derrière notre équipe qui est l'équipe féminine.
Et demain, Emmanuel Macron prodiguera lui aussi ses encouragements à l'équipe de France féminine. Le chef de l'État est attendu en fin de matinée à Clairefontaine.
Allez les Bleus, voilà, France-Corée vendredi soir.
Merci, voilà. Merci Florence Paracuelo.